Donc, j'ai créé plusieurs consultations une quinzaine d'années, tant sur l'Oise que sur le Val d'Oise, les Hauts-de-Seine et à Paris, à l'Institut, donc à la Ligue française pour la santé mentale, dont Boris Cyrulnik est notre vice-président. Et actuellement, je me suis centré plutôt sur une ville, en travaillant sur différents espaces, un espace santé jeune, où on va pouvoir rencontrer des jeunes qui vont nous parler de leur mal-être, mais on va aborder aussi à travers leur. Je dirais leurs symptômes, les violences intrafamiliales, les violences conjugales. Ce qui fait que pour 40% de ces enfants, on peut avoir en effet des violences qui sont repérées et où les parents ne faisaient pas du tout de démarche. Et puis une autre consultation, donc dans un centre municipal de santé, où il y a différents praticiens, hein, et on peut travailler en réseau, en collaboration avec d'autres associations, donc des associations qui défendent donc les droits des femmes. J'ai souvent eu des financements aussi des structures droits des femmes sur les différentes préfectures pour les initiatives qu'on avait donc engagées. Et je le précise pour les trois publics, hein, donc les enfants exposés, les femmes donc victimes, et puis les auteurs d'agressions que l'on prend en charge donc dans différentes consultations. Alors, le plan d'intervention, on verra les conséquences de l'ignorance des violences conjugales. Pourquoi et comment dépister? Je vois que les collègues ont déjà fort bien étayé, et donc peut-être que je survolerai. Le rôle des psychothérapeutes spécialisés donc en psychotraumatologie, en victimologie. Les principes du traitement, et si on n'a pas trop de temps, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails. Les techniques et les psychothérapies, le traitement lui-même. Et puis les formations à la problématique des violences conjugales pour les psychologues cliniciens et les intervenants sociaux. Actuellement, j'ai des programmes de supervision et de formation des intervenants judiciaires, donc les SPIP, hein, les services de prévention pour le ministère de Justice, dans le cadre des préventions de la récidive. Et on a des programmes pour les auteurs de violences sexuelles, que je traite également, les violences conjugales et puis. Je dirais les violences sur la sphère publique, avec des problématiques alcool ou toxicomanie. Alors les conséquences de l'ignorance de ces violences conjugales, c'est vrai qu'on voit guère les agresseurs, hein, les pervers narcissiques, dans nos consultations avec une demande avide de transformation. Hein, on y rencontre plutôt leurs compagnes, et celles-ci peuvent nous apprendre en effet beaucoup sur le fonctionnement psychique qui s'instaure de part et d'autre de cette relation qui va devenir pathologique, marquée par une emprise aliénante de l'auteur sur sa victime, avec souvent violence et une destruction psychique et pas seulement physique. Ce n'est que progressivement et presque par hasard, hein, que l'on apprend qu'elles subissent depuis des années des violences physiques. Et on peut en effet, comme on précisait tout à l'heure, voir les traces sur leur corps et des violences aussi psychiques, donc plutôt invisibles. Et qu'on ne prenait pas toujours en compte d'ailleurs. Hein, moi j'ai beaucoup milité pour que les experts puissent certes donner des ITT sur ce qui est apparent, les violences physiques, mais les violences psychologiques, ça peut être aussi dans les expertises repérées. Et il faut inciter parce que la justice n'était pas toujours, je dirais, avec une écoute attentive sur ces problématiques. Donc les violences psychiques, c'est les insultes quotidiennes, les humiliations. Les accusations, les intimidations sur soi ou sur ses proches, enfants, voire les animaux, menaces de mort aussi, que ces malheureusement victimes ont toujours tendance un peu à minimiser. Non seulement elles peuvent trouver des excuses donc à l'auteur, mais elles peuvent aussi s'attribuer la responsabilité avec cette phrase qu'on entend souvent, je dois y être certainement pour quelque chose. C'est une phrase qui revient après chaque récit de scène violente, en écho donc au conjoint, qui leur signifie systématiquement, pour justifier donc après coup leur crise violente, que ce sont elles qui les ont provoquées. Donc elles vivent les coups comme le châtiment mérité pour une faute qu'elles auraient commise, avec donc des représailles inévitables, attendues, voire provoquées, car derrière le mari ou le conjoint pervers narcissique se cache un autre, hein, un persécuteur. Le plus souvent, l'environnement n'est pas au courant et le couple offre une certaine image idéale à l'extérieur. Le compagnon peut être très apprécié ou avoir en effet, comme on le citait, des responsabilités dans les clubs sportifs, faire partie de clubs divers. Et puis, on n'en sait rien. Et puis finalement, cet homme charmant, quand il revient d'une soirée, un dîner en ville, il peut frapper sa femme avec une ceinture en l'injuriant devant leur petite fille que les hurlements ont réveillée. Ce n'est qu'au fil des années que donc cette image va se fissurer de ce personnage. Quelques personnes de l'entourage, ça peut être une amie, une collègue, enseignante, parents, des professionnels de santé, qui commencent alors à voir que ce qui se passe, ou la personne commence en tout cas à en parler. Et c'est vrai qu'il est souvent étonnant de constater la lenteur de ce processus de mise à jour. Et quand je travaillais au Québec avec mes collègues sur les violences conjugales, c'est vrai qu'on constatait qu'il pouvait y avoir des 3, 5 ans, voire même 8 ans avant qu'on prenne en compte. Donc vous imaginez le processus de destruction au long cours. Donc dans la relation d'emprise, c'est bien simple, l'un des deux pour son profit ou pour son plaisir, il va néantiser le monde mental de l'autre. Donc s'il néantisait le monde physique de l'autre, on n'aurait pas de peine à nommer cela comme un crime dans une telle relation. Mais pour le monde mental, il a fallu de longs débats et donc des années pour comprendre que la néantisation du monde mental d'un autre est un crime dont il faut analyser les processus de destruction et de reprise de néo-développement résilient chez les victimes donc de violences conjugales. Donc souvent les violences physiques laissent dans l'ombre les violences psychologiques qui témoignent de cette relation d'emprise sur l'autre. Donc la relation d'emprise, elle est plus le fait d'un processus d'installation de la violence au sein du couple. Notre regard en conséquence doit aussi se focaliser sur une analyse processuelle du mode opératoire des sujets violents, et pas seulement sur un seul individu. Donc ce processus, il est enregistré bien sûr par les témoins directs, mais aussi donc des témoins indirects, des enfants exposés, et aussi d'autres adultes présents. Ça peut être une belle-mère, entre guillemets, complice passive, qui assiste à tout ça, et qui ne fait rien pour faire changer les choses. De la résilience de la victime naîtra cette identification aussi résiliente des enfants. De la résilience de la victime, en effet, on s'aperçoit que si elle n'existe pas, il peut y avoir des conséquences pour les garçons, entre autres, qui portent sur le risque d'identification au père ou au beau-père agresseur, ou à l'identification compassionnelle à la mère, brisée, s'affaissant donc devant la force des coups et des humiliations. Donc la ligne de démarcation identificatoire sépare la rébellion, le refus de la violence subie par les résilientes, de l'autre espace qui lui est marqué par l'acceptation de l'oppression par le dominateur violent. Une métaphore historique et politique nous indique aussi les deux types de postures humaines face à la barbarie et à l'extermination, l'homme résistant, résilient, et l'homme acceptant son statut d'esclave, passif et résigné, hypnotisé et fantôme glissant lentement vers la mort. D'un côté, la force de vie, la résilience, et de l'autre côté, l'abandon à la mort. La toile de fond de ces violences conjugales, c'est l'échec de leur relation d'amour. Le mirage de l'amour pour des êtres en difficulté identificatoire et en carence narcissique précoce pour certains auteurs. Si l'emprise, Liliane Daligan nous cite dans le journal des psychologues Les violences conjugales, si l'emprise n'est pas totale, n'a pas éliminé le corps au seul bénéfice de la tête, la victime conserve une chair réduite aux seules sensations injectées par l'agresseur. Celle-ci constitue un corps étranger, fiché dans la chair, dont la victime ne peut se défaire. Mais surtout, elles sont une source qui impose des sensations exaspérées et des émotions irrépressibles. Donc, les professionnels du champ psychosocial et médical, nous avons un rôle essentiel. On voit bien que ces violences entraînent une atteinte de l'intégrité physique et psychique et ont de lourdes conséquences psychotraumatiques qui s'installent donc dans la durée. Ces conséquences sont à l'heure actuelle souvent minimisées, voire méconnues par les professionnels de la santé et rarement diagnostiquées à temps et de fait donc rarement prises en charge de façon spécifique. Un petit passage concernant malheureusement aussi le manque de formation de certains policiers qui, malgré nos injonctions à aller porter plainte, ne reçoivent pas avec le meilleur accueil donc ces victimes et qui sont obligés d'y aller 7, 8, 9 ou 10 fois avec des mains courantes qui ne servent pas beaucoup parce que ça continue malheureusement à se perpétuer ces violences. Alors qu'il y a un expert dernièrement qui me disait tu peux me parler des enfants? Donc je parlais des dégâts sur les enfants et il me dit moi j'ai un souci, ce père il est pathologique, violent, mais il y a eu malheureusement aucun passage au tribunal en chambre correctionnelle pour des violences. Donc on en parlait tout à l'heure, son droit en tout cas à être père, je vais le proposer alors que les enfants veulent plus du tout, ils ont été aussi violentés. Mais comme il n'y a pas eu vraiment de dépôt de plainte pour violence et jugement, l'expert en question va donc proposer que le père puisse revoir ses enfants à son propre domicile alors que mes conclusions étaient à l'opposé. Donc pourquoi et comment dépister? Bon, c'est l'essentiel d'évaluer déjà l'état de santé physique et psychique de la personne et de dépister les conséquences fréquentes et habituelles donc de ces violences conjugales, violences sexuelles que mes collègues ont longuement développées tout à l'heure. Mais c'est aussi mettre en place des soins spécialisés et un traitement si nécessaire. Également, établir un certificat de constatation des violences conjugales qui a une valeur médico-légale, voire des jours d'ITT avec une capacité totale de travail, qui vont servir aussi à qualifier les faits au niveau judiciaire. Dans tous les cas de violence, il est nécessaire donc de consulter un médecin, son médecin traitant, première porte d'entrée, on l'a vu, hein, pour une majorité, un service des urgences aussi en milieu hospitalier, une consultation spécialisée quand elle existe, avec un expert médico-légal et un psychologue clinicien formé, un médecin spécialiste, un clinicien spécialisé ou des travailleurs sociaux qui ont reçu aussi des formations de sensibilisation à ces phénomènes. La victime, donc, comment l'aider? Et c'est en effet la première à être, je dirais, à être accompagnée, aidée. Alors c'est vrai que c'est difficile de parler dans notre société où la loi du silence est encore très présente par rapport aux violences, particulièrement les violences intrafamiliales, les violences au sein du couple, mais aussi les maltraitances faites aux enfants et aux personnes vulnérables, les violences institutionnelles ou au travail, et aussi les violences sexuelles, puisqu'on voit dans certaines études que seulement 8% des viols font l'objet d'une plainte. Peu d'informations circulent, les droits et la loi sont peu connus, les victimes peuvent craindre souvent à juste titre de ne pas être entendues, de ne pas être crues, voire d'être culpabilisées. Dans ce cas, la victime ne doit surtout pas accorder foi à ses comportements qui sont liés à une méconnaissance de la réalité des victimes de violence et quelquefois d'un déni pour que le professionnel se protège, de ne pas prendre ses responsabilités, voire à de la malveillance. Donc de chercher d'autres personnes plus fiables à qui en parler. Malheureusement, des fois, c'est pas toujours le cas. Donc ces pratiques aidantes pour les victimes et soutenantes pour les professionnels, elles reposent en effet sur une posture dite proactive, au sens où il s'agit d'aller au-devant des personnes en difficulté, de tendre la main plutôt que d'attendre une demande de leur part. Donc une posture de neutralité bienveillante n'est pas adaptée. En effet, compte tenu des difficultés donc associées à la situation des violences conjugales, la difficulté de parler, mais aussi une difficulté de penser à sa propre protection, voire celle de ses enfants, les professionnels donc croisés à un moment donné seront parfois les seuls que la victime se donnera la possibilité de voir avant de replonger dans un nouveau cycle de violence qui sera marqué par de nouveaux risques pour elle et donc ses enfants, ses proches. Tout professionnel, par une question simple, peut ouvrir un espace de parole à propos de la violence. Plutôt de considérer le professionnel suivant plus compétent, plus adapté à le faire. Professionnel que la personne n'ira peut-être pas rencontrer. Le rôle des psychothérapeutes spécialisés est en traumatologie et en victimologie. Donc le traitement est essentiellement psychothérapeutique, mais il s'agit en urgence, mais je le reprécisais comme ma collègue tout à l'heure, d'être en synergie donc avec d'autres structures qui vont, elles, faire des informations avec des appuis d'avocats pour des démarches pour soutenir ces victimes dans un processus de réparation et de reconnaissance de leur statut au niveau judiciaire. Donc il s'agit en urgence de mettre en sécurité, d'éviter aussi le risque suicidaire chez la victime, parce qu'on a vu, hein, plus de 10% peuvent être en effet à risque suicidaire, d'éviter de nouvelles violences, mais aussi de soigner médicalement la souffrance psychique et les symptômes anxio-dépressifs. D'éviter l'allumage de la mémoire traumatique et la souffrance qu'elle entraîne, et donc d'identifier et de prendre en charge les conduites à risque dissociantes. Les principes du traitement, évaluer le risque suicidaire, Donc, il faut en parler, poser des questions, évaluer la présence aussi de personnes de confiance et sécurisantes, voir la qualité de l'entourage. Est-ce qu'il faut hospitaliser, faire un signalement? Pour sécuriser l'espace de vie du patient, il faut éventuellement aider à mettre en place une ordonnance de protection qui permettra d'organiser l'éviction du conjoint violent et de mettre en place un hébergement d'urgence ou un placement en urgence s'il s'agit d'un enfant en danger, si victime directe des violences domestiques. Et en effet, dans 40% des cas, nous rencontrons cette problématique. Ordonnance de protection, une collègue m'a posé la question, mais est-ce que ça se fait partout? En France, je vois à Paris, oui. Moi, je rencontre des obligations de soins pour des hommes violents qui sont partis donc de leur domicile et qui ont une interdiction. Et si cette interdiction, d'ailleurs, n'est pas respectée, ils peuvent être incarcérés. Donc, dernièrement, une personne n'a pas respecté et elle est partie en détention. Donc, ça dépend des départements, des politiques, je dirais, des procureurs de la République et des personnalités de certains magistrats. Tout le monde n'est pas sur le même régime en France, selon les départements. Donc, faites attention si vous allez en France, si vous voulez habiter, n'allez pas dans certains départements où on va minimiser ces situations. Il n'y aura pas d'ordonnance de protection. Donc si une victime majeure souhaite dans un premier temps rester dans l'univers violent, ça arrive malheureusement, dans sa famille ou dans le couple, il faut avec elle mettre en place des stratégies. On parlait tout à l'heure de thérapie, de stratégie, donc de défense, de sauvegarde, l'aider à identifier et anticiper aussi, à désamorcer les comportements violents, les stratégies, les manipulations des auteurs, l'aider à préparer une séparation dans les meilleures conditions de sécurité. Donc, et on sait bien qu'en effet, on le citait tout à l'heure sur les chiffres, 146 personnes en France décédées, dont 121 femmes, avec quelquefois, en effet, suite à des ruptures, après donc des périodes de séparation, où il peut y avoir en effet des violences post-rupture à 6 mois ou 1 an après et qui peuvent être mortelles. De même, il faut identifier donc toutes les conduites et les situations qui peuvent être apaisantes et qui ont fait leur preuve. Donc l'importance de questionner donc la personne sur ce qui l'apaise, et puis favoriser les liens avec les personnes de confiance en informant celles-ci pour qu'elles soient à même d'intervenir et de rassurer, voire d'héberger en urgence toute ou partie de la famille. Principe du traitement, donc prendre en charge les conduites aussi addictives, CQLR, alcool, drogue, tabac. Il faut donc donner toutes les informations nécessaires sur les psychotraumatismes en expliquant notamment les mécanismes donc neurobiologiques, en plus des thérapeutiques, des approches thérapeutiques habituellement mises en œuvre pour ces victimes. Soulager la souffrance psychique et les symptômes anxio-dépressifs avec des traitements médicamenteux. Je vais passer un peu là-dessus parce que je pense que le temps court vite. Pour soulager la souffrance physique, il est utile aussi d'associer un traitement antalgique efficace. De plus, la kinésithérapie, la relaxation, l'hypnose et des thérapies corporelles peuvent être d'un apport intéressant. Pour éviter donc les montées de stress, adrénaline trop importantes, qui vont réveiller la mémoire traumatique, le médecin peut prescrire en effet des traitements préventifs. Donc dans tous les cas, il est essentiel de ne pas se contenter de mettre en place uniquement un traitement symptomatique sans prise en charge psychothérapeutique spécialisée. Il est encore plus essentiel de ne pas avoir recours à des traitements uniquement dissociants ou anesthésiants. Donc, les traitements psychothérapeutiques spécialisés pour les victimes de violences est encore peu développé, et c'est vrai que sur la masse, sur une ville, on le voit bien, on est peu de spécialistes. Et en ce moment, je suis dans un programme de formation où je forme des psychologues de la police, des psychologues, des assistants sociaux du Conseil général, des associations, des médecins, et puis des professionnels aussi de mairie qui peuvent être amenés à rencontrer donc des plaignants. Voilà, donc ça c'est important. Ces programmes de formation, on les développe de plus en plus. Différentes techniques thérapeutiques sont utilisées, donc on les a abordées tout à l'heure, psychothérapie dynamique, psychanalyse. Alors la psychanalyse cure type, ça, attention, neutralité bienveillante, ça ne le fait pas, donc la personne ne restera pas longtemps. Thérapie systémique, thérapie comportementale et cognitive, l'hypnose, EMDR, des thérapies émotionnelles, thérapie aussi corporelle, thérapie par le jeu pour les enfants. Donc moi j'ai créé plusieurs consultations avec des ateliers d'expression pour les enfants qui sont exposés à des violences domestiques. On va utiliser donc différentes techniques, création de marionnettes. Ils vont créer leurs propres marionnettes. Les marionnettes, bien sûr, au contact avec des enfants, quand ils ont des petits jeux, des scénettes, ils vont les réparer. Donc il y aura la notion aussi de réparation. Et puis de travailler sur des scénettes avec des interprétations de ce qui se passe. Mais on a aussi montage, collage photo, des mini-scènes de théâtre aussi. Et les enfants sont très, très actifs. Et pour des enfants qui ont du mal à être pris en charge en individuel, les ateliers collectifs sont très intéressants. Alors le traitement n'est pas le même quand il s'agit de violences uniques ou limitées dans le temps, ou quand il s'agit donc de violences conjugales répétées. Donc les violences uniques, la thérapie peut être efficace en quelques séances, surtout si elle est mise en place rapidement après le traumatisme, ce qui est malheureusement pas toujours le cas, en donnant donc des outils sur les mécanismes et en évitant qu'une mémoire traumatique et des symptômes ne s'installent au long cours. Pour les violences conjugales continues, répétées, il ne s'agit pas uniquement de traiter donc les émotions et les symptômes, il faut aussi aider la personne à se libérer donc d'une personnalité traumatisée qui s'est construite autour donc des symptômes psychotraumatiques et à retrouver, à reconstruire donc sa vraie personnalité parce qu'elle a été dépersonnalisée, son histoire et sa vérité qui est un peu morcelée et réunifiée donc à la fois intellect, corps et émotion et déminer patiemment la mémoire traumatique. Ça demande en effet une thérapie spécialisée et beaucoup plus longue. Alors le cadre des prises en charge psychothérapeutiques, donc le thérapeute doit être compétent, il y a on a eu des textes récents sur ce domaine, elle doit être centrée sur les violences et les conséquences donc psychotraumatiques, en face à face, elle ne doit pas faire l'économie donc d'un engagement contre les violences et les rapports d'inégalité, et elle doit comporter des références à la loi. Donc nous en tant que thérapeute, nous sommes porteurs de ce discours-là, et c'est vrai que c'est bien que face à un homme aussi, qui est dans des systèmes d'agression, un autre homme puisse lui dire que ça, c'est inadmissible. Et donc, tant en individuel qu'en groupe, alors c'est vrai qu'en les groupes de parole pour les agresseurs, on a souvent, ils se présentent la première journée, ils sont victimes. Ils ont été victimes de mauvais traitements au commissariat, ensuite des magistrats, etc. Voilà. Et donc, après leurs complaintes et leurs lamentations, on va pouvoir travailler un peu plus en profondeur, justement, sur ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, et au nom de quoi ils peuvent se permettre d'acter de tels gestes ou de telles humiliations. Donc, les techniques utiles doivent être associées à un travail sur les liens entre violence, symptômes et émotions, sur la compréhension des mécanismes, sur le traitement de la mémoire traumatique, sur l'analyse donc des violences et du comportement pathologique de leur auteur. Donc ça nous arrive de parler donc en effet aux victimes de leur auteur ou des autres auteurs, et puis aussi de se méfier préventivement de ce qui peut encore arriver dans la série et dans les bagages et la trousse à outils des agresseurs. La relation doit être respectueuse, bienveillante, sécurisante, sans aucun rapport de pouvoir, en face à face avec une écoute empathique. Il ne s'agit pas de juger le sujet victime de violences conjugales, ni de l'éduquer, mais de le croire, de l'accompagner, de le soutenir et de lui offrir des outils performants pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre la situation, mieux comprendre aussi et contrôler ses réactions, ses émotions, ses comportements, comprendre aussi son histoire, voir les stratégies malheureusement de répétition, parce que des fois on a des répétitions et ça nous inquiète toujours, nous en tant que professionnels. Vous en êtes à trois relations avec des hommes violents. Que se passe-t-il? Et donc aussi de se libérer. Alors je ne vais pas rentrer dans le. Mais, parce que tout à l'heure ça a été très bien développé donc, par notre collègue hein, Michel Quintin. Sur les histoires de cortex associatif, l'hippocampe. Donc, nous, on essaye en effet de faire disparaître les réminiscences, les conduites donc d'évitement et les conduites dissociantes. Et donc, c'est important ces compréhensions aussi des mécanismes neurobiologiques pour nous, mais aussi entre professionnels. Donc, c'est vrai que le travail en réseau, ça permet de travailler avec des médecins et de mettre tout ça en lien. Et puis, d'en parler aussi aux victimes. Il s'agit de traiter la mémoire traumatique, donc faire que on puisse mettre des mots sur chaque situation, et on voit c'est souvent les mots ont manqué, voire les pensées. en analysant donc avec justesse le contexte, les réactions et le comportement donc de l'agresseur. Reprendre le contrôle donc de ces réactions de l'amygdale cérébrale et d'encoder donc la mémoire traumatique émotionnelle pour la transformer en mémoire autobiographique, consciente et contrôlable. Alors le but est de ne pas renoncer à tout comprendre ni à redonner du sens. Donc tout symptôme, tout cauchemar, tout comportement qui n'est pas reconnu comme cohérent avec ce que l'on est fondamentalement donc en lieu de penser, c'est-à-dire toute réaction ou sensation incongrue, doivent être disséquées pour les relier à leur origine, et donc pour éclairer par des liens qui permettent de mieux les mettre en perspective par rapport aux violences que ces personnes ont subies. Un exemple, quand il y a eu des violences sexuelles, une odeur qui donne un malaise, envie de vomir, se rapporte à une odeur de l'agresseur. Une douleur qui fait paniquer se rapporte à une douleur ressentie lors de l'agression. Un bruit qui paraît intolérable et angoissant est un bruit qui a été entendu lors des violences, comme un bruit de pluie s'il pleuvait, un bruit de chaudière si le viol a été commis tout à côté d'une chaudière. Une heure de la journée aussi, peut-être systématiquement angoissante, peut entraîner une prise d'alcool ou de conduite boulimique, des raptus aussi suicidaires, des automutilations s'il s'agit de l'heure de l'agression. Une sensation d'irritation ou d'échauffement au niveau des organes génitaux, qui surviennent aussi de façon totalement inadaptée dans certaines situations, peut en effet se rapporter aux attouchements subis. Et des fantasmes sexuels violents, très dérangeants, dont on ne veut pas, mais qui s'imposent malheureusement dans notre esprit, ce ne sont que des réminiscences traumatiques, des viols ou des agressions sexuelles subies. Donc, jamais renoncer donc à tout comprendre. Ce travail, il se fait quasiment automatiquement et donc permet de sécuriser le terrain psychique. Et c'est vrai, lors d'un allumage de la mémoire traumatique, le cortex pourra désormais contrôler la réponse émotionnelle et apaiser donc la détresse sans avoir recours à une disjonction spontanée ou provoquée par des conduites dissociantes à risque. Donc, le but, c'est que la victime devienne une experte en déminage et poursuit le travail tout seul, ce qui lui permet en tout cas de retrouver son équilibre. La mémoire traumatique déminée, désamorcée, va pouvoir être intégrée dans une mémoire explicite, donc narrative et autobiographique, libérant l'espace psychique. Pour ça que des fois on demande aux personnes d'écrire. Ça va permettre aussi une certaine récupération d'un sentiment aussi de cohérence et d'unité, de retrouvailles avec soi-même. Parce que malheureusement, on a été morcelé, éclaté, divisé, réduit en cendres. Donc, faire écrire ces victimes sur les événements violents, sur leurs émotions, leurs réactions, leurs symptômes, leurs rêves, ou bien les soutenir en les incitant à continuer si elles ont déjà commencé à écrire. Animation de groupes de parole dans le cadre d'associations, qui peuvent être donc très utiles pour aider les victimes à s'exprimer sur leur histoire et leur vécu. Des activités aussi créatives, qui peuvent être en effet des supports, des médiateurs, qui sont des aides précieuses pour s'exprimer, se comprendre. C'est des facteurs de résilience et aussi des outils thérapeutiques. Très important aussi pour les enfants exposés aux les violences domestiques, de leur faire découvrir et redécouvrir des capacités aussi créatives et cognitives à travers des ateliers d'expression. Et donc de favoriser aussi des liens affectifs sécurisants avec des adultes protecteurs, des animaux de compagnie. Les animaux peuvent être aussi des outils et des médiateurs pour nous. Il est essentiel d'expliquer les mécanismes à l'œuvre chez l'agresseur pour permettre une meilleure compréhension de son comportement, de sa position perverse d'emprise, hein, pour mieux se défendre, et aussi de nommer les agressions, de faire référence à la loi. Il est primordial de ne plus banaliser les violences, de ne plus être fataliste face à la violence subie, de savoir que l'agresseur peut renoncer à la violence et de se faire traiter. Alors, concernant les programmes thérapeutiques visant les violences physiques et invisibles, donc on a en effet des formes diverses et subtiles de ces violences et on va pouvoir les traiter. Nos objectifs cliniques sont de traiter les abus psychologiques et verbaux, les violences invisibles pour les sujets intelligents, pervers à la destruction camouflée, avec effraction, captation, programmation de la victime, la gestion des violences physiques. La transformation de la violence domestique en permettant une construction psychique et sa réalisation dans une réalité quotidienne d'un couple plus égalitaire. Alors, ce programme, il peut s'adresser aux sujets violents qui souhaitent personnellement, sans obligation, travailler leur violence. Dans nos consultations, on va dire qu'il y a 15% de cette population. Aux conjoints dont la compagne a formulé une injonction aux soins pour éviter une rupture. Là, le chiffre est plus important, on peut avoir jusqu'à 30 à 35%. Et puis le reste, c'est des sujets placés sous obligation de soins. Donc ceux-là, ils traînent un peu les pieds, sont réticents, ils minimisent, ils contestent la nécessité en disant où était le bon vieux temps, où on n'était pas du tout sous les projecteurs judiciaires. Donc notre but, c'est d'assouplir aussi, d'assouplir leur positionnement de défense, hein, de départ, avec la cohabitation justement avec des participants qui disent oui, on a un véritable problème et on ne peut pas continuer comme ça. Donc les dénis de leur violence vont s'estomper grâce au fait d'une intervention juridique extérieure et la possibilité aussi de leur compagne de nous interpeller en cas de récidive. Donc traiter l'agresseur, plusieurs préconisations thérapeutiques, des entretiens individuels de l'auteur, de la victime. Il arrive qu'il y ait de demandes aussi des entretiens de couple, mais là, sous certaines conditions, on l'a vu tout à l'heure, hors de question avec des individus manipulateurs de rentrer dans ce type de dispositif. Des approches systémiques de la famille, parce qu'il peut y avoir donc des violences intrafamiliales, où la mère peut être battue par son époux, mais aussi par des enfants de 15-16 ans qui vont en plus lui demander de porter le voile. Groupe de parole pour sujets violents, groupe de parole pour victimes de violences conjugales. Les enfants exposés aux violences domestiques, plusieurs formes d'intervention, donc des évaluations des situations à risque pour eux, qui vont permettre après d'orienter vers des thérapies de groupe, des ateliers d'expression, des interventions individuelles aussi, avec un soutien bienveillant et empathique pour aider ces enfants, ces adolescents qui ont été témoins de violences conjugales ou intrafamiliales. Les réponses thérapeutiques, hein, sous la forme de groupe, on l'a expérimenté sur plusieurs lieux. Donc, thérapie de groupe avec un lieu éducatif et curatif qui va mettre donc l'accent sur les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire créer un climat sûr et chaleureux pour eux, où les enfants ont un aspect aussi ludique pour faire face à leur expérience, habiliter les enfants, les aider aussi à surmonter leur sentiment d'impuissance, planifier la sécurité pour des refuges en lieu sûr et de demander de l'aide à des adultes de confiance et aux services d'urgence, rompre le silence, nommer les formes de violence, apprendre qu'il y a des solutions non violentes pour régler les conflits. Donc là, il y a un aspect transmission sur lequel on va travailler. Et puis apprendre des façons non violentes et non agressives d'exprimer la colère ou d'autres sentiments. Des thérapies individuelles aussi pour ces enfants. Des techniques de relaxation peuvent être adjointes aussi quand ça nous semble utile. Alors la formation des problématiques des violences conjugales pour les psychologues et les intervenants sociaux sera mon dernier chapitre. Je suis dans les temps, ça va?
6 minutes normalement.
Ça va. Donc les stages de formation pour ces publics, ça permet donc une approche qui est à la fois théorique, pratique, pluridisciplinaire pour la compréhension du phénomène en apportant donc des informations et des outils pour comprendre et agir. Donc, alerter sur les difficultés de détection de la violence conjugale. Donc, elle va sensibiliser à l'importance de l'articulation des secteurs universitaires, associatifs et des politiques publiques, ainsi qu'à la nécessité de la mutualisation donc, des expériences et des pratiques nationales, voire internationales, dans la lutte contre les inégalités et l'élimination de toute forme de discrimination à l'encontre des femmes et des filles. Donc, ces programmes-là, on les expérimente bien sûr en France, mais j'ai pu les mettre en place au Tadjikistan, en Afghanistan également, à la demande des gouvernements. Les thèmes traités dans ces formations, donc les mécanismes de violence de genre, les aspects juridiques, les conséquences des violences, l'accompagnement des victimes de violences, donc une spécificité, l'écoute, la prise de parole et l'accueil, l'urgence aussi subjective, l'accompagnement des professionnels, l'analyse des pratiques et la souffrance dans la relation d'aide, les diverses thérapies utilisées, en individuel, en couple, en famille, en groupe de parole, les ateliers d'expression aussi, les préventions de la récidive, donc les programmes de prévention de la récidive du ministère de la Justice, qui ont mis en place des groupes de parole en milieu ouvert et fermé. Je les ai développés d'ailleurs, les programmes dans ce livre. Les politiques publiques aussi et le besoin d'interdisciplinarité, d'intersectorialité, la politique de la ville de Paris, un modèle parisien d'intervention contre les violences faites aux femmes avec prévention, action sociale, accès aux droits, hébergement, sécurité, accompagnement aussi judiciaire. Et puis les expériences et les dispositifs internationaux, différents dispositifs argentins avec des unités mobiles. Moi-même, j'interviens à peu près 15% de mon temps à domicile. Ce qui permet aussi de détecter des situations violentes qui n'ont pas forcément été caractérisées mais où on nous demande de voir un peu les situations. Ce qui m'a permis de découvrir, par exemple, deux enfants qui étaient dans une halte-garderie, qui étaient très violents avec les autres enfants, qui les attaquaient à la gorge. Donc, quand je suis arrivé le matin, j'ai vu à 8 h du matin que ces enfants étaient déjà nus, avec des traces de brûlures de cigarettes sur le corps, et d'autre part que les parents les mettaient dans une chambre avec des chiens, on comprend mieux les morsures, pour qu'ils puissent être rééduqués par les animaux, et c'était donc les punitions. Donc suite à ça, il a fallu que je dise au père que j'allais en parler au procureur de la République, que je faisais donc un signalement, et avec menace. Mais bon, dans ces situations, il faut pouvoir tenir cette posture-là, sinon on ferme les yeux et on est dans une attitude passive et c'est pas possible. Voilà, d'autres modèles aussi, chiliens, canadiens, espagnols. Donc on voit qu'au niveau international, il y a des prises en charge, en effet, qui sont de plus en plus développées et des politiques qu'il faut renforcer parce qu'on n'en a pas terminé. Mais pour moi, c'est fini.
Ah.